Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les étoiles sous le chat à venir On écrit sur les murs de nos rêves Et on écrit sur les murs de nos rêves
Rêver, imaginer, se lancer, réécrire et rebondir, c'est ce qu'ont fait les entrepreneurs que je vais interviewer dans le tourbillon Family. Elles accompagnent notre quotidien de femmes, de futures ou jeunes mamans, nous soutiennent dans la maternité, elles éveillent nos enfants et les regardent grandir. Alors qui sont les créateurs et les créatrices derrière ces marques qui révolutionnent l'univers de la famille? En grande curieuse et passionnée d'entrepreneuriat, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces visionnaires qui sont allés au bout de leurs idées pour apporter des solutions et une touche de bonne humeur au sein de nos tribus. Des invités nous racontent sans filtre comment est né leur projet, de l'idée jusqu'au succès. Bienvenue dans le Tourbillon Family.
Pour ce deuxième épisode, je suis ravie d'accueillir la marque Pipouette qui a fait le pari de démocratiser l'accompagnement des émotions de nos enfants. Et c'est Nathalie, la fondatrice, qui nous raconte comment elle a imaginé ces petits lapins qui changent de visage. Nathalie a arrêté ses études après son bac et a commencé un job d'été qu'elle occupera finalement pendant 6 ans. À 24 ans, elle décide de quitter ce travail pour reprendre ses études et débarque à Paris sans connaître personne. De boulot en boulot, elle sent que les années défilent et qu'elle ne trouve pas ce qui la fait vibrer, malgré son confort financier. Elle tombe enceinte et c'est le déclic. Elle ne veut plus de cette vie professionnelle et veut donner du sens à ce qu'elle fait. Rupture conventionnelle, début de maternité et les émotions fortes de sa fille vont lui donner l'idée de créer une poupée qui permettra aux enfants de parler de leurs émotions plus facilement. L'idée est lancée, Nathalie démarre alors sa nouvelle aventure sans y connaître grand-chose. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle s'est lancée dans son entreprise, les obstacles qu'elle a rencontrés, comment Pipouette est devenu le compagnon préféré des familles et pourquoi il faut toujours oser. Bonne écoute.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode du Tourbillon Family.
Ben, merci à toi de m'avoir invité dans ton podcast, je suis super touchée.
Alors, tu es la créatrice de Pipouette. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est?
Oui, bien sûr. Pipouette, c'est un lapin avec des visages interchangeables. Et en fait, l'idée vraiment de Pipouette, c'est de pouvoir accompagner les émotions des enfants. Les accompagner en fait à vivre leurs émotions, à les reconnaître, à les exprimer, à les identifier, mais vraiment surtout à encourager en fait les familles à vivre toutes leurs émotions, à les partager, oser en parler, libérer la parole qui est souvent encore un petit peu compliqué à libérer autour des émotions parce que nous, notre génération aujourd'hui de parents, j'ai le sentiment qu'on est un petit peu entre deux. On aimerait bien oser dire tout ce qu'on ressent et que ce soit facile de le faire à la fois pour nous et pour nos enfants. Et en même temps, on n'a pas toujours été en fait élevé avec cette libération de la parole, et donc il y a un petit peu aussi, je trouve encore très fortement ancré, l'empreinte d'un schéma familial où c'était difficile de dire ce qu'on ressentait, où il fallait se taire, etc. Donc vraiment, Pipouette est là pour aider les enfants, mais aussi, j'ai envie de dire, les parents qui font vraiment partie prenante du projet et vivre ces émotions, quelles qu'elles soient, en famille, ou on en discutera probablement après, mais aussi dans des structures collectives, type crèche, école, etc.
Alors, on va revenir à ton enfance à toi, justement. Dans quel cadre tu as grandi? Quel environnement? Comment c'était chez toi?
Alors, donc moi j'ai grandi dans un village à côté de Reims. J'ai grandi dans une maison avec un jardin, pas en pleine campagne, mais en tout cas quand même finalement assez connectée à la nature dans mon quotidien. J'ai une petite sœur qui a 6 ans de moins que moi. Notre différence d'âge fait qu'on n'avait pas toujours envie de jouer aux mêmes choses. Mais bon, malgré tout, dans notre enfance, on était quand même assez proches. Et voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle j'ai grandi.
Tu jouais avec quoi, toi, quand tu étais petite ?
Alors, j'ai pas de souvenirs hyper... Enfin, si plutôt, j'ai des souvenirs des fois... précis, des flashs, mais est-ce que c'est dû quand je regarde les albums photos ou est-ce que c'est vraiment ce que je me souviens au fond de moi? Je pense que j'aimais vraiment beaucoup jouer à me déguiser avec mes copines. Ça, c'était... j'avais vraiment une malle à déguisement assez importante. Et voilà, c'était un de mes grands... kiff de ma vie d'enfant, voilà, de sortir tout ça et de s'inventer un petit peu pas une vie parallèle, mais bon, en tout cas, de s'imaginer un tour à tour princesse ou pirate ou... Voilà, ça j'aimais bien. Et j'aimais beaucoup aussi organiser des espèces de petites fêtes où on dansait et tout ça, et ça c'est, voilà, j'aimais bien ça.
Et t'avais un doudou, toi ?
Oui. Alors, que j'appelle Nanin, et que j'ai encore. que j'ai encore, mais je l'ai eu assez tard. Je crois que je l'ai eu vers 5 ans, et c'est un édredon. Donc, je te laisse imaginer qu'il prend un petit peu de place.
Ah oui, tu le trimballais partout avec toi.
Vu la taille, non, je le trimballais pas partout. C'est ce qui était un avantage, a priori, pour mes parents, de pas avoir à trimballer mon nanin partout. Voilà, je l'ai toujours aujourd'hui. Et en fait, il est, pour la petite histoire, cet édredon appartenait à ma grand-mère maternelle et il a été fait avec une de ses anciennes robes de soirée, tu vois, des années genre 1950 ou 1960.
Génial.
Bon, depuis après, le tissu était quand même super abîmé, on a dû le recouvrir, mais c'était en fait en soie. Et moi, quand j'étais petite, j'adorais en fait caresser des choses douces.
Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu serais plus grande ?
Écoute, tu me poses une colle parce que je pense que j'ai, pendant très très longtemps, et finalement j'ai presque envie de te dire jusqu'à temps de faire pipouette, je pense que je ne savais pas vraiment répondre de manière, enfin tu vois, du tac au tac à cette question. Alors oui, quand j'étais petite, je crois que j'ai voulu faire maîtresse, médecin, pompière ou je sais pas quoi. Mais je me suis jamais...
Tu n'es pas prise de passion pour un métier
très jeune. Non, j'ai toujours eu du... Il y a plein de choses que j'aime et que j'aimais faire et que j'aime vraiment explorer, aller un peu tâtonner à plein de choses. Mais je n'étais pas ce genre de fille avec une passion, un truc hyper fort qui m'anime... Non, voilà, c'était... Et c'est vrai que des fois, je me souviens, tu sais, au collège, on te dit... le prof te dit, mais quelles sont tes passions, tes hobbies et tout. Et en fait, moi, j'étais toujours un peu gênée de répondre à cette question parce que j'aimais plein de choses, mais j'aimais pas un truc plus que tout en particulier.
Et alors, t'as fait quoi comme études ?
J'ai arrêté mes études après le bac.
Ok.
Parce que à l'époque, en fait, j'avais envie de me diriger vers un métier quand même à vocation sociale. Donc j'étais plutôt soit éducatrice de jeunes enfants ou assistante sociale, etc.
T'étais toujours à Reims ?
Oui, à ce moment-là, j'étais à Reims et j'avais passé les concours. Et je me souviens qu'aux oraux, en fait, l'examinateur m'avait dit « Bon, Nathalie... ok, super, beau parcours, mais je vais vous dire tout de suite, en fait, on vous retiendra pas parce que vous avez que 17 ans. Et nous, aujourd'hui, sur ces métiers-là, on a quand même besoin d'avoir des gens qui ont du vécu. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais trouvé ça hyper dur parce que je me suis dit, ben oui, mais en fait, c'est des concours qui sont accessibles post-bac. Et donc, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? J'avais pas trop envie de me diriger avec mon cursus. J'aurais pu faire une formation d'infirmière, par exemple. Ça m'attirait pas trop à l'époque. Et du coup, enfin voilà, c'était un peu un espèce de trou noir. Un des profs qui m'adorait me dit « Bah Nathalie, si tu veux... tu peux faire un... Pour l'été, je te propose un remplacement de secrétaire médicale au centre hospitalier universitaire de Reims. Est-ce que ça te dit ? » Et en fait, voilà, c'était juste au départ un job de vacances.
Ouais.
Et au final, je l'ai fait quand même pendant 6 ans.
Ah oui ?
Je pense, voilà, parce que j'arrivais pas à trouver vraiment le truc qui me faisait vibrer. J'avais pas spécialement envie d'aller à la fac pour aller à la fac ou... Donc, j'ai été secrétaire médicale pendant 6 ans. Et puis, au bout de 6 ans, j'avais fait le tour quand même, parce que j'avais, dans ce métier en tout cas, j'avais été au bout de ce que je pouvais, entre guillemets, faire. Et j'avais 24 ans. Et donc, je me suis dit, bon, j'en suis quand même au tout début de ma vie professionnelle. Et ça va être un peu long de continuer comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là, à 24 ans, que j'ai décidé de reprendre mes études. Et comme j'avais déjà travaillé pendant 6 ans, pour le coup, j'avais pas envie de reprendre un cursus en initiale et d'aller à l'école 5 jours sur 5. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un... Comme je m'étais arrêtée au bac, de reprendre par un bac plus 2. J'ai fait un BTS... à l'époque, c'était assistante de direction. Maintenant, ça doit être office manager ou un truc comme ça. Et je l'ai fait en alternance. Et à ce moment-là, j'ai décidé de venir vivre à Paris.
D'accord, ok. Ah oui, gros changement.
Donc, c'était gros changement. C'était... En plus, je vivais toujours chez ma mère.
Ouais.
Donc, du coup, c'était vraiment le gros changement, un petit peu une mini-révolution dans ma vie. C'était partir à Paris, prendre un appart toute seule et reprendre mes études dans une ville que je ne connaissais pas du tout, dans laquelle j'avais zéro point d'ancrage, que ce soit amis ou famille.
Ouais, tu connaissais personne ?
Non, je connaissais personne. Donc voilà, c'était...
La grande aventure.
Ouais, c'était un moment... Si on peut dire, un peu la grande aventure, en tout cas au moment de la prise de décision et de l'arrivée à Paris avec toutes ces nouveautés.
Alors, comment s'est passée cette arrivée ?
Et bien, plutôt bien. Mmh. Parce que, en fait, tout c'est. Ça a été assez facile. Parce que très rapidement je me suis quand même fait des amis, ça se passait bien à l'école, ça se passait bien au boulot. En fait, ce qui m'a sauvée quelque part à ce moment-là, c'est que je me suis fait une amie qui avait le même âge que moi et qui avait aussi bossé plusieurs années avant. Et d'avoir en fait ce parcours un peu similaire, et ben c'était super chouette de partager ça avec elle, parce que c'est vrai que les autres avaient 18 ans et sortaient du bac.
Oui.
Et il y avait quand même un décalage qui est normal, hein. Mm. mais voilà. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans, et après je devais être partie sur ma lancée. Je me suis dit ok, je vais continuer. Donc j'ai fait 3 ans supplémentaires en alternance en école de commerce. Donc voilà, je partageais ma semaine entre l'école et puis et mon boulot. Et il devait déjà y avoir un petit goût pour l'entrepreneuriat à ce moment-là. Mmh. Parce que j'ai fait le majeur entrepreneuriat.
Ah d'accord.
Donc voilà, il devait déjà y avoir un petit truc
sous-jacent
à ce moment-là, et c'était le cursus que j'avais choisi en école de commerce.
D'accord. Du coup, tu avais fait un projet de fin d'études sur l'entrepreneuriat ou pas ?
Non, on n'avait pas de projet de fin d'études vraiment à proprement parler. On a eu des cas à travailler en équipe et des petits projets à monter. Mais on n'avait pas vraiment de projet personnel en fait à aboutir en fin d'études.
Donc là, vous appreniez les bases de l'entrepreneuriat, comment monter son entreprise, faire un business plan.
Oui, c'est ça. On apprenait ça vraiment de manière, pour le coup,
très théorique.
Bah, par la force des choses théorique et scolaire, même si on avait des intervenants qui étaient des entrepreneurs. Mais finalement, en fait, tant que tu n'es pas confronté à la vraie réalité de l'entrepreneuriat, quand tu n'as pas les mains dedans... Bah, tout ça, ça t'apparaît quand même à 25 ans, si t'y as pas goûté, bah oui, ça reste quand même très théorique. Tu fais des cas marketing où tu apprends tes 4 P, tu fais ton business plan, les règles de compta, des choses comme ça. Bon, puis c'était qu'une partie de notre cursus, après on avait... toute une partie cursus généraliste entre guillemets, mais oui, voilà. Donc disons que ça m'a ouvert les yeux quand même sur certaines réalités de l'entrepreneuriat et ça m'a boosté, tu vois, sur quand on bossait sur certains projets, pour me dire toute cette créativité, c'est super chouette, mais c'est vrai que voilà, ça restait quand même une théorie.
Et alors, t'as fait quoi après tout ça ?
J'ai travaillé, en fait, j'ai occupé différents postes plutôt sur la partie commerciale. Voilà, donc j'ai travaillé dans différentes boîtes, toujours en B2B, donc avec des clients professionnels, sur des postes un peu style responsable grand compte, donc ils font... qui sont plutôt sympas sur le CV et sur LinkedIn. J'ai expérimenté différents secteurs, à la fois secteur industriel, donc pas du tout glamour, des secteurs aussi où il y avait un peu plus d'humains dans la formation professionnelle, etc. Mais au final, il n'y a pas eu un poste où je me suis dit « Ok, Nathalie, t'es à ta place. » Et donc, je pense que c'est pour ça que je changeais malgré tout assez régulièrement de job tous les deux ans, en me disant « Ok, bon, c'est sympa, mais et ça marche plutôt bien d'un point de vue business. Mais moi, à l'intérieur de moi, voilà, c'est... » Tu vois, tu sais, on parle beaucoup de l'alignement, finalement. Et ben voilà, j'étais pas alignée. Et plus, quelque part, je grimpais les échelons, mieux je gagnais ma vie, moins j'étais heureuse.
Ah oui.
Professionnellement, ouais.
Et alors, à quel moment tu t'es dit, ça me convient pas du tout, en fait
C'est pas très original, mais la naissance... de Maëlys, enfin, déjà, c'est vrai que quand j'étais enceinte, je me posais pas mal de questions sur mon rôle à la fois de mère et de femme active, comment j'allais organiser les choses, qu'est-ce que j'avais envie à la fois pour moi, pour elle, pour notre vie de famille.
Donc là, t'avais quel âge ?
Là, j'avais 32 ans. Okay. Et il y avait une réflexion qui revenait très souvent, en fait... en dehors de ces considérations, c'était qu'est-ce que je vais lui transmettre comme valeur, comme possibilité aussi de liberté, de croire en... de confiance en soi, etc. Et c'était, voilà, cette idée de transmission que j'allais ou pas véhiculer par ce que je faisais, moi, dans ma vie, Nathalie, de femme, finalement. Ça revenait un peu tout le temps dans ma tête. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que je me suis dit, je veux pas offrir à ma fille, en fait, une vie qui serait matériellement confortable, mais une vie où, finalement, je passerais très peu de temps avec elle. et surtout où en fait la, quelque part la valeur principale que je lui donnerais, c'est ben maman va travailler pour gagner de l'argent, et la motivation première à l'époque était oui d'avoir une rémunération qui était plutôt cool. Mais si tu me demandais si ce que je faisais me faisait vibrer, c'était non, quoi. Ouais. À part, oui, de temps en temps, mais pas au quotidien.
Donc tout ça, tu te le dis pendant ta grossesse ou une fois qu'elle est arrivée ou...
Je me le dis plutôt une fois qu'elle est là, vraiment. Et en plus, rien n'était décidé à ce moment-là avec mon entreprise de l'époque. Je devais reprendre... Maëlys est née le 25 octobre. Je crois que je devais reprendre au 1er février de l'année suivante ou quelque chose comme ça. Et quand elle avait un mois et demi, on se dit, bon, bah ok. Je pense qu'inconsciemment, j'avais pas trop envie qu'elle soit gardée. Donc on n'avait pas encore entamé de démarche de mode de garde. Et là, on commence à regarder crèche, nounou, assistante maternelle, etc. Et là, j'ai une image qui est hyper ancrée en moi. Elle est dans mes bras, on est dans notre salon. Je suis debout, je la tiens dans mes bras et je vois en fait cette toute petite chose. Parce qu'elle était en plus assez petite à la naissance et donc... Et pas très grosse, et donc je vois ce tout petit bébé dans mes bras, et je me dis, mais en fait, je peux pas la laisser là tout de suite maintenant. Ouais. Alors, après, je pense que finalement, on est nombreuses à se faire cette réflexion, et puis chemin faisant, par obligation ou par vrai choix, il y en a qui reprennent le boulot quand le bébé a 3 mois, mais c'est vrai que là, j'ai senti, tu vois, un truc vraiment viscéral. En moi, je me suis dit, non, en fait, s'accumuler au fait que je vais pas prendre énormément de plaisir dans mon boulot, je demande du coup une rupture conventionnelle dans mon entreprise.
Et alors, comment ça se passe ces premiers jours sans bosser avec ton bébé? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un peu peur d'avoir quitté tout ça, le confort?
Oui, bah, de toute façon, la maternité étant quand même... la plus grande des aventures, c'est déjà un bouleversement énorme, et en plus quelque part je viens un peu rebattre les cartes de l'ensemble de ma vie en me disant ok, j'ai un bébé de 2 mois dans les bras et je viens de quitter mon boulot et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire.
Ah ouais.
Parce qu'à l'époque je ne savais pas du tout.
Alors t'avais le chômage pour le coup?
Oui, pour le coup, du coup j'avais le chômage, et c'est vrai que finalement j'ai pris l'option de me dire je sentais bien que de toute façon ces premières années allaient passer hyper vite. Trop vite.
Ouais.
Et j'avais envie d'en profiter, et donc je me suis occupée d'elle quasiment pendant un an et demi à peu près. On était toutes les deux, alors forcément avec toutes les contradictions que ça engendre. Il y a des jours où je trouvais ça merveilleux, il y a des jours où je trouvais ça horrible.
Ah oui, parce que t'étais 24 heures sur 24 avec elle en fait.
Oui, ouais. Et je pense qu'on était très fusionnels. Mais c'est vrai que quand elle était petite, Maëlys avait des besoins intenses, on va dire.
Mmh.
Et ça a renforcé en fait ce côté très fusionnel entre nous deux. Et c'est vrai qu'en l'observant tous les jours, en fait, jour et nuit pour le coup, parce que les nuits ont été très très compliquées, les émotions sont apparues assez vite, même j'ai envie de dire dès sa naissance.
Ouais.
Comme un vrai sujet. Mmh. Alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce qu'en plus
c'est l'inconnu,
c'est mon premier bébé. Moi je me dis ok, c'est normal en quelque sorte. En plus à l'époque, mes copines qui avaient déjà eu des enfants habitaient plutôt loin, donc on s'appelait une fois de temps en temps, etc. Mais on se voyait pas vraiment dans le quotidien en tout cas, donc c'est vrai que je me sens finalement assez seule, et je me dis bon bon bah c'est comme ça, c'est un bébé quoi.
Ouais. Donc c'était quoi, beaucoup de pleurs
Oui, elle pleurait beaucoup et elle exprimait très forte, enfin de manière très expressive en fait tout ce qu'elle ressentait. Mmh. Et vraiment en fait dès le premier jour.
Ouais.
C'est, y a pas, tu sais, c'est pas apparu comme ça un jour à 6 mois ou à 9 mois ou plus tard avec l'affirmation de soi. Non, c'était vraiment comme ça, de manière intrinsèque, dès la naissance. Et donc, on a dû aussi, finalement, s'adapter à elle, à ce qu'elle nous montrait, à ce qu'elle partage avec nous. Et... voilà, on a essayé de faire au mieux.
Et alors, c'est de là que t'es venue l'idée de Pipouette ?
Oui, alors vraiment, l'idée de Pipouette m'est venue un petit peu plus tard, quand elle avait... j'ai commencé vraiment à me poser des vraies questions sur les émotions quand elle avait à peu près 15 mois, 18 mois, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, elle nous montre... vraiment des choses en s'exprimant de toutes les façons possibles. Il y a ses propres émotions, mais aussi ce qui était difficile à gérer à ce moment-là, c'était tout ce qu'elle me renvoyait de mes propres émotions, en fait.
Ouais.
Ce fameux effet miroir, bébé éponge, et ça, ça a été difficile, en fait, pour moi à gérer et à appréhender, parce que j'étais censée être l'adulte de 33-34 ans à l'époque, qui maîtrise bien ses émotions. Et c'est, en fait, je me suis aperçue que c'était pas du tout le cas, parce que elle allait en plus forcément en résonance aller chercher assez loin. Et là, je me suis vite des fois dans des situations où je me suis dit, mais en fait, Nathalie, là, tu réagis en fait comme un enfant qui a un an, deux ans, quatre ans. Alors la seule différence, c'est que je ne me roulais pas par terre. Mais en dehors de ça, oui, je pouvais avoir des comportements hyper explosifs, des émotions qui étaient... Alors j'aime pas utiliser le mot « gérer », que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Je trouve que c'est pas un terme approprié, mais en tout cas... J'avais beaucoup de mal à accueillir ce que je ressentais et du coup je le gardais pour moi et ça finissait forcément en cocotte minute absolument explosive. Et du coup en plus des fois pour moi j'explosais pour un truc qui s'était passé il y a 3 jours.
Ouais.
Donc, oui, il y avait un... C'est hyper compliqué en plus à recevoir pour les autres quand toi tu penses à un truc qui s'est passé il y a plusieurs jours et là tu te dis qu'est-ce qui se passe en fait, là il n'y a rien. Et c'est un peu en fait comme les enfants qui se mettent dans une tempête émotionnelle pas possible si tu leur donnes pas la bonne couleur du gobelet ou la fourchette qu'ils voulaient, etc. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, ok, il y a un vrai sujet. Et pour moi en tant que maman, et pour elle aussi en tant qu'enfant, et qu'est-ce que je peux faire pour que, à la fois en tant qu'individu et qu'en tant que famille, on puisse vivre beaucoup mieux nos émotions. Et voilà, enfin, avoir des émotions qui soient accueillies, plus sereines, où la parole aussi a beaucoup plus de place chez nous, etc. Donc c'est venu un petit peu... c'est venu comme ça. Au départ, je me suis assez intéressée à tout ce qui était éducation positive, bienveillante. Aujourd'hui, alors je vais pas dire que c'est plus la logique que je suis, parce que ce serait pas vrai. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans mon évolution, à la fois en tant que maman et aussi dans ce que je souhaite, de ce que je fais avec Pipouette, ça fait partie un peu en fond de mes principes un petit peu d'éducation. mais je m'en éloigne un peu quand même malgré tout. Enfin, je veux pas être, tu vois, je veux pas affilier Pipouette à ça, parce que je trouve que ça peut être dans certains cas vraiment, malgré tout, jugeant et culpabilisant pour les parents. Et que je pars du principe qu'on fait vraiment, a priori, tous du mieux qu'on peut, en fonction de son bagage, de son expérience personnelle, de notre vie actuelle, de son enfant aussi, de plein de choses. J'en suis un petit peu revenue de ces injonctions finalement où on te dit ouais mais en fait si tu fais pas ça, en plus le cerveau de ton enfant va en prendre un coup, enfin voilà, c'est hyper culpabilisant, alors que j'estime que je suis quand même beaucoup investie dans l'éducation de ma fille et que je continue aussi à l'être, mais voilà, je privilégie en tout cas le fait que je suis humaine, que toutes les papas, les mamans, on est tous voilà des humains avec nos forces, nos failles, et que a priori on veut quand même tous faire au mieux pour que nos enfants soient heureux. Et c'est vrai que quand je lisais des choses, ça paraît toujours hyper facile quand tu lis le truc. Tu te dis ok, bah c'est super simple, voilà, la méthode elle est là, je vais appliquer ça avec mon enfant et ça va rouler. Sauf que quand tu le fais, tu te dis ah mince, j'ai tout bien appliqué comme dans le livre et ça marche pas. Là c'est encore plus dur du coup pour les émotions du parent finalement.
Ah bah oui, ça décuple
ça décuple les émotions, et puis surtout ce sentiment de ah bah si moi j'y arrive pas, bah je suis une mère nulle, et qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi ça marche pas, à cause de moi mon enfant n'a pas les meilleures chances dans la vie, etc. Ouais. Et ce qui est faux. Donc moi je suis plutôt à la fois dans ma vie de maman et dans mon rôle de fondatrice de Pipouette, dans quelque chose de beaucoup plus décomplexé en tout cas. Et voilà, et chacun fait au mieux. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de chemin à faire, bien au contraire. Mais un peu... keep cool, et tu es la bonne mère en fait pour ton enfant.
Ouais. Et alors du coup tu fais le bilan de tout cet état, des émotions, etc. Comment te vient l'idée de créer ce petit lapin mignon qui change de visage?
Alors, une nuit à 4h du mat, l'heure de des nombreux réveils de ma fille à l'époque, et sur du coup des moments où j'avais pu forcément me rendormir, je me dis et si en fait ce truc qui me trotte dans la tête pour les émotions, c'est pas matérialisé par une peluche ou une poupée, enfin à l'époque voilà, c'est tout est un peu flou, et pour lequel en fait cette peluche ou cette poupée, elle aurait plein d'émotions différentes, et on pourrait en fait communiquer avec elle, à la fois avec les mots, mais aussi de manière non verbale, justement pour accompagner les émotions de ces enfants en fait qui sont encore petits, qui n'ont pas encore acquis le langage, ou pour les enfants pour qui le langage c'est compliqué, mais qui ont plein de choses à dire et qui s'expriment très bien par d'autres biais. Et voilà, donc ça part un peu comme ça.
Donc là, il est 4h du matin, t'as cette idée qui s'illumine dans ta tête. Et du coup, c'est quoi? C'est l'excitation, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire? Ou tu te dis, bon, je vais quand même y repenser demain matin après avoir dormi un peu plus?
Non, je me dis mais oui, c'est ça qu'il faut faire en fait.
Ouais, direct.
Ouais, direct je me dis ouais, c'est ça qu'il faut faire. Alors, mais là, encore une fois, ça part d'un constat hyper personnel que ma fille adore les choses tactiles, sensorielles, moi aussi. Et je trouve que, voilà, par l'exploration de tous les sens et notamment par le toucher, pour nous en tout cas, c'est beaucoup plus facile en fait... de vivre nos émotions, de les exprimer, de les ressentir, de les partager. Et c'est pour ça que je pars en fait de cet objet physique et pas un livre par exemple, parce que ça aurait pu être l'idée, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de livres sur les émotions et je trouve ça, enfin c'est super, mais moi j'avais pas, enfin c'était pas mon besoin déjà dans ma vie perso et j'avais pas envie de reproduire un petit peu ce qui existait déjà. Donc voilà, cette idée de un peu de peluche m'apparaît assez clairement. Après, très vite, il y a ce syndrome un peu de l'imposteur où je me dis ok, Nathalie, c'est bien, t'as fait une école de commerce, mais tu n'as aucune expérience en psychologie ou en éducation des enfants, etc. Donc bah, c'est bien gentil en fait d'avoir cette idée. Ouais, mais je suis personne, je suis un peu nulle. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais y arriver? Enfin voilà,
le beau cocktail pour démarrer.
Voilà, toutes ces grandes questions existentielles, à part mon expérience de ma vie de maman. Donc en fait, pour me rassurer, et pour le coup je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que j'ai appris plein de choses, je décide de faire des formations professionnelles autour des émotions. Voilà, donc je fais notamment une formation qui s'appelle La grammaire des émotions d'Isabelle Filosa. Je fais ça, je fais une formation en éducation émotionnelle, je lis beaucoup. J'essaye un peu de me remplir quelque part un peu de contenu qui va me rassurer, mais en même temps qui va être bien évidemment essentiel quand même dans la construction de Pipouette, parce que Pipouette, oui, c'est un doudou qui est rassurant, mais avant tout c'est un outil pédagogique. Et donc c'était absolument nécessaire dans la construction même de ce lapin, tant en fait au niveau de sa forme, de ce qu'il transmet par son corps ou par ses visages. Bah, c'était hyper important en fait d'avoir du sens, de coller aux vrais besoins des familles et ensuite d'avoir la validation des professionnels de l'enfance.
Et alors, donc tu fais ces formations, l'idée du lapin, comment elle est venue Parce que tu imaginais une forme, tu savais que ça allait être quelque chose qu'on pourrait toucher, mais...
Alors, déjà, je fais quand même un petit benchmark petit peu sur notre ami Google, où je me dis, ok, top, j'ai cette idée comme ça qui m'est apparue et qui me semble vraiment bien pour coller à nos besoins, mais en fait, j'avais aucune idée de ce qui existait sur le marché. Ouais. Donc je me dis, je vais quand même regarder. Il existait déjà des choses à l'époque qui s'appellent plutôt... poupée des émotions par exemple, je regarde ce qui se fait et là je me dis juste mon premier point, c'est de me dire ok, esthétiquement c'est quand même très loin en fait de l'univers que j'affectionne et que j'ai envie en fait à la fois pour ma fille et pour tous les enfants qui pourraient avoir ce support. Et deuxième réflexion qui mûrit après avoir fait ces formations, c'est de me dire sur plein de points au niveau pédagogique, je suis pas d'accord avec comment ces outils-là ont été construits. Par exemple, sur ces poupées à émotions qui existent, souvent c'est un enfant ou une forme associé à une émotion. Et tu vois, dans Pipouette, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est ce principe des visages interchangeables. Parce que pour moi, on n'est pas nos émotions. Nos émotions, elles sont présentes toute la journée et elles vont être présentes tout au long de notre vie. On ressent déjà des émotions quand on est dans le ventre de notre maman. Et ensuite, ça ne s'arrête jamais jusqu'à notre mort. Mais pour moi, voilà, elles sont là, elles nous traversent, on les accueille, on les vit, et elles changent, enfin elles sont fluctuantes. Si je te pose la question, tu vas me dire que peut-être ce matin, voilà, tu t'es levé avec une émotion, maintenant t'en ressens une autre, tout à l'heure t'en ressentiras une autre et tu te coucheras avec une autre. Donc pour moi, d'associer en fait de façon permanente une émotion à soit une petite fille, soit un petit garçon, une forme de peluche ou autre, pour moi c'est contraire à ce qu'on vit et c'est contraire à ce qu'on doit transmettre à nos enfants. Et voilà, c'est pour ça qu'en tout cas dans la construction de Pipouette, ça c'était vraiment quelque chose d'essentiel. La forme de Pipouette restera toujours la même, puisque nous on est toujours le même individu, mais par contre les émotions que Pipouette va vivre, elles vont évoluer au fil du temps, en fonction de ce que l'enfant ressent, de ce qu'il a envie de raconter, etc.
Mais alors comment tu te dis je vais faire ce petit lapin
Là, tu sais, il y a une citation qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Je crois que c'était un peu ça.
Mark Twain.
Oui, exactement. Je crois qu'on est vraiment là-dedans. Parce que mais je venais... Donc moi, je ne connaissais pas d'entrepreneur. Je n'avais jamais expérimenté donc le milieu d'une start-up ou de n'importe quel type d'entrepreneuriat. Je venais pas du milieu du jouet, ni de la petite enfance, ni du textile. Donc c'était... Voilà, il y a une espèce de foi, un truc un peu dingue en me disant « Ok, bah faut que je fasse ça, donc je vais le faire, c'est un peu ma mission de vie. » Mais...
Par où je commence ?
Concrètement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc je tâtonne, je fais pas mal de recherches, etc. Je contacte des gens, je me fais globalement refouler un peu de partout.
Ouais.
Au départ, j'avais envie de travailler avec des ateliers. Je me suis dit le moyen le plus simple, c'est de contacter des ateliers français qui font des pluches. Très naïvement.
Bah oui.
Et là, je me prends des bordes de partout en me disant... Ah oui, mais non, nous on sait pas faire, parce que moi j'avais envie de travailler, tu vois, un peu à la façon d'une poupée de chiffon en tissu, et ils me disent ah bah non, mais nous on fait de la pluche. Oui, non, mais c'est assez ressemblant. Ah oui, mais non, mais nous on sait pas faire. Ok, d'accord. Bon.
Mais là, du coup, t'avais déjà dessiné ton prototype, tu savais que ce serait un lapin, tu savais qu'il y aurait des visages qui se changeraient. Ou t'étais plutôt là dans la découverte de comment fabriquer une peluche.
Les deux sont arrivés un peu conjointement au même moment. Le lapin, tout simplement parce que je trouvais que c'était une forme assez connue de beaucoup d'enfants, donc qui avait un côté rassurant. Et déjà, en fait, arriver avec un concept autour des émotions... c'est déjà pas simple, et donc pour moi c'était important que le design en fait du support soit déjà quelque chose qui soit connu de tous entre guillemets et qui inspire un peu confiance dans laquelle les enfants vont pouvoir très facilement se projeter. J'ai hésité avec un ours. Après, ce qui m'a fait basculer pour le lapin, c'est qu'en général le lapin a toujours un petit côté bienveillant et gentil, contrairement des fois à l'ours. Et puis ce côté grandes oreilles, là pour le côté préhension et motricité fine, je trouvais que c'était plus intéressant. Voilà. Donc voilà pourquoi le lapin, mais des fois c'est des choses un peu comme ça, instinctives, qui jouent à pas grand chose. J'ai pas fait une étude
sur tous les animaux.
Voilà.
Et du coup, tu le dessines toi-même ou tu fais appel à quelqu'un pour avoir ce que tu imagines représenter sur papier
Alors, cette étape, elle est hyper compliquée parce que je ne dessine pas, je ne coupe pas. Non seulement je me trouve nulle en fait sur ces choses-là, mais en plus, je n'ai pas envie de le faire. Voilà, donc j'ai plein de choses dans ma tête. Et en effet, je me rends compte qu'il va falloir que je les retranscrive. Mais c'est vraiment pas évident, parce que moi, je dis aux gens, oui, alors j'imagine donc ce lapin avec des visages interchangeables, mais à l'époque, je sais même pas comment vont être ces visages. Ouais. Donc très rapidement, je sais que je vais devoir être raccord avec la norme ceux du jouet. Donc je me plonge dans cette joyeuse littérature. Et là, je me dis, ok, mais en fait, pour le changement des visages, qu'est-ce que je vais faire? En plus, au départ, je suis partie, je crois que si on prend les premiers échanges de mails ou les premiers croquis, l'idée, c'était de faire un peu en crochet les émotions sur le visage, hein, bref, très loin de ce qu'est maintenant. Mais voilà, ça part un peu dans tous les sens. Je vais toquer aux portes, j'ai peut-être différents trucs et tout. Je fais des premiers croquis quand même, parce que je me rends compte que les ateliers me disent enfin, vous êtes gentils avec votre idée, mais vous n'avez rien de concret à nous apporter.
Ah oui.
Donc j'entends. Et là, je me dis, ok, donc je commence à travailler avec une première illustratrice qui me fait des choses. Finalement, une fois que c'est mis de manière un peu plus concrète sur le papier, je m'aperçois que c'est pas ce que j'ai envie, c'est un peu trop enfantin. Les émotions sont pas assez réalistes à mon sens, c'est un peu trop simpliste. Et là, je me dis, ok, bon, bah c'est pas ça. Là j'avais lâché beaucoup d'argent quand même à ce moment-là déjà pour ça. Mais voilà, je sens à l'intérieur de moi que c'est pas ça. Alors je me dis, ok, bon bah ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Je m'assois là-dessus et je recherche quelqu'un d'autre. Seulement voilà, cette recherche de quelqu'un d'autre, ça a pris beaucoup de temps. Et après, par recommandation, quelqu'un me dit une modéliste en fait que je rencontre. Et à laquelle je voulais confier le projet, me dit « Écoute, Nathalie, j'ai fait des essais, ça va pas le faire, je vais pas pouvoir concrétiser tout ce que t'as envie. » Mais par contre, tu vois, quelqu'un de hyper humble, finalement, me dire « Bah voilà, je peux pas aller jusqu'au bout de ton idée, mais tu devrais contacter cette personne qui est top. » je pense qu'elle est surchargée de boulot, mais ça coûte rien de la contacter. Donc cette personne, c'est Lucille Michili, c'est mon illustratrice adorée avec laquelle j'ai vraiment concrétisé Pipouette, avec laquelle je travaille toujours.
D'accord.
Et donc elle fait vraiment partie de la genèse de l'aventure, parce que on peut jamais dire si je l'avais pas rencontrée, puis Pipouette n'aurait pas existé, j'en sais rien, peut-être sous une autre forme, mais en tout cas, voilà, j'envoie un message à Lucille, finalement elle me répond assez vite, elle me dit si tu veux, on peut se rencontrer. Donc on se rencontre dans un café en juillet, je présente mes idées et tout, et elle me dit ok, j'aime bien ton projet, je vais t'accompagner. Et donc elle me fait le proto. À la fois, donc je lui demande, je fais tout un cahier des charges et je lui demande de dessiner les visages de Pipouette, d'avoir quelque chose d'hyper expressif, de presque réaliste finalement, et aussi de travailler sur le prototype de ce lapin qui va être le support pour accueillir les visages. Et on se revoit 2-3 mois plus tard, donc c'est des mois qui paraissent long quand t'es en construction de projet, et elle me présente ce qui va devenir Pipouette, finalement. Alors, bien évidemment, il y a eu des ajustements, différentes versions, etc. Mais quand même, tu vois, si, quand je regarde la version, la V1, c'est pas si éloigné de ce qui est Pipouette aujourd'hui. Et donc...
Donc la grosse émotion, ta Pipouette...
Ouais, parce que c'est vraiment
l'accomplissement... Il s'est passé combien de temps, d'ailleurs, entre l'idée, l'idée à 4 heures du mat, et là, c'est la première Pipouette que tu tiens dans ta main.
Il se passe pas mal de temps, il se passe plus d'un an.
Ouais.
Il se passe plus d'un an. Donc, c'est long. Enfin, c'est long, en même temps, c'est court, finalement. Et donc, oui, beaucoup d'émotions, parce que cette fois-ci, ça a été... tu vois, c'est plus juste dans ma tête. Ça devient presque un vrai projet qui est matérialisé. En plus, c'est un objet physique peu en 3D, tu vois, donc qui est là, qui est présent et à moi d'en faire quelque chose, finalement. À ce moment-là, je fais valider quand même... parce que tu sais, je te disais tout à l'heure que je tenais vraiment au sens dans Pipouette et à avoir un vrai fond. Pipouette, c'est pas juste là pour être jolie. Et comme c'est un vrai outil pédagogique, je vais quand même présenter ce proto à des gens dont le métier c'est l'accompagnement
des enfants.
Donc je le montre à une sophrologue spécialiste de la sphère émotionnelle qui s'appelle Stéphanie Couturier et que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a une approche vraiment super avec les enfants. Je le montre aussi à une pédopsychiatre. Je le montre à une directrice de crèche. Enfin voilà, j'essaye en tout cas de...
Et l'accueil est bon ?
Ouais, et l'accueil est bon. Donc du coup, ça fait plaisir. Et puis et en dehors de ça, ça booste pour porter le projet pour de vrai et le... et le lancer. Donc à ce moment-là, je n'ai toujours pas trouvé mon atelier de confection, pour le coup. Parce que j'avais envie vraiment de faire produire en France. Et au final, je trouve un atelier de confection qui fait de la réinsertion pas très loin de chez moi, sur l'île Saint-Denis, dans le 93. Donc en plus... avec une dimension locale et sociétale assez forte. Et donc on commence, ils me disent go. Et donc là je me dis, ok, si tu me dis go, voilà, on peut plus reculer, on y va, on le fait. Donc ça c'est en septembre 2018. Et je leur dis, Noël... c'est dans 3 mois.
Ah oui.
Ce serait l'occasion, en fait, de profiter de Noël pour présenter Pipouette à tout le monde, quoi. Et donc, ils me disent, ok, on va démarrer la production assez vite, en octobre.
Donc là, tu fixes combien d'objets produits ?
Et je fixe une petite quantité. On démarre avec une série de 150 pièces.
Okay.
Donc c'est vraiment une petite quantité, parce qu'à l'époque, bien évidemment, je n'ai encore pas vraiment confiance en moi. Et je me dis, et si ça marche pas, et si... tu vois, tout le...
Et au niveau finance, là, c'est quelque chose que toi, tu finances toute seule, ou tu fais des prêts, comment ça se passe?
Oui, parce que en fait, à ce moment-là, j'ai besoin, je pense, de me prouver à moi-même que je peux réussir à faire quelque chose toute seule, sans aide de personne. C'est un vrai... Enfin, plutôt qu'une vraie entreprise, à ce moment-là, ce que j'ai envie, c'est de me dire, ok, en fait, Nathalie, t'as les capacités de le faire, tu peux y arriver. Et donc, en fait, pour réussir en fait, à franchir ce cap... un peu de la confiance en moi, j'ai besoin de le faire vraiment seul, un peu dans mon coin, et de pas aller solliciter un prêt ou le soutien de différents partenaires et de me dire ok, je préfère commencer petit, mais au moins en fait si ça marche pas quelque part, c'est un peu de ma faute, et si ça marche, c'est un peu grâce à moi. Tu vois.
Donc t'avais mis de l'argent de côté de tes précédentes expériences pro.
Oui.
Pour pouvoir payer tout ça.
Oui.
Ces petites quantités. Oui. Donc, ça chiffre assez vite.
Oui, ça chiffre assez vite. Dès le démarrage, j'ai fait le choix d'une production responsable, donc à la fois de rémunérer convenablement en fait les couturières qui allaient bosser pour moi, et puis aussi un choix responsable par rapport au choix des matières. Donc dès le départ, ça a été du coton bio certifié GOTS, etc. Donc, et en plus sur des petites quantités comme ça, tout fait en France, ça avait un coût non négligeable. Donc je démarre comme ça, je lance le compte Insta en octobre.
T'avais créé ton site web aussi ?
Non, j'ai eu un site qu'un an après.
Ah oui, d'accord.
Non, simplement. Non, je crée un compte Insta. À l'époque, Claire du compte Pimous et Pomme m'a beaucoup soutenue en fait. Dans ce moment-là, en me disant bon, Nathalie, maintenant tu ne peux plus reculer, tu le fais, vraiment tu le fais. Non mais j'ai peur. Non mais on s'en fout que t'aies peur, tu le fais. Donc on organise chez elle un premier shooting photo. Il y a juste ma fille et ses enfants
Parce que t'avais ta prod du coup qui avait été faite.
Non, j'avais deux protos quoi. Enfin, trois protos même pas. Non, j'avais rien quoi. Et à l'époque, les visages de Pipouette, c'était vraiment que les quatre émotions fondamentales. Donc la joie, la colère, la peur et la tristesse. Et rien d'autre. Une seule tenue de Pipouette et puis basta quoi. Enfin, c'était un produit unique. Donc je lance le compte Insta le 20 octobre. Pas d'engouement de ouf, mais en tout cas ça allait plutôt quand même dans le bon sens, et les gens en tout cas il y avait cette curiosité de savoir c'est quoi là, elle va faire quoi en fait, parce que c'est un peu nouveau. La peluche on connaît, mais ces histoires de visages interchangeables et comment on fait pour accompagner les émotions, comment ça se passe, etc. Donc je pense pas mal de à la fois de coups de cœur et en même temps de bon, on va attendre de voir ce qu'elle va faire quoi.
Et tu connaissais des nanas qui étaient sur Instagram qui pouvaient parler de ton projet, ou t'es vraiment partie de zéro
Au départ, ça se fait un peu comme ça, de zéro, avec quelques comptes d'influenceuses. Enfin, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais bon, en tout cas, quelques comptes qui partagent assez vite l'aventure de Pipouette. Donc ça démarre comme ça. Et après, en fait, au mois de novembre, je me lance sur un pop-up qui s'appelle The Réunion, et je lance en fait, Pipouette, ce week-end-là, comme ça, un mois de Noël. J'avais la trouille comme pas possible, je pense.
Donc là, t'avais reçu toutes tes pipouettes.
Oui, alors je les avais récupérées la veille au soir, je crois, à 23h. Enfin, c'était épique. C'était vraiment épique. Mais oui, je démarre avec quelque chose.
Premier salon. Premier salon. Gros salon famille, en plus. Donc,
Oui, voilà. Donc, c'était... je vais voir ce qui se passe. Ça se passe plutôt bien. Je rencontre, en tout, je fais vraiment des belles rencontres à ce moment-là. Il y a des clientes qui sont toujours fidèles aujourd'hui, des gens que j'ai rencontrés là-bas qui sont devenus des amis. Donc c'est plutôt plutôt une belle expérience. Donc finalement j'écoule cette prod avant Noël. Donc donc je me dis déjà premier pari réussi, quelque part, un peu ce soulagement de me dire ok, bah tu l'as fait quoi. C'était plutôt chouette. Après, en fait, en janvier, cet atelier de confection me dit bah Nathalie, on va plus pouvoir bosser ensemble. Donc là, c'est un peu alors c'est pas une... je tombe pas des nues non plus, parce que moi il y avait des choses sur lesquelles je trouvais que c'était pas vraiment optimal en termes de niveau de qualité. Il y avait des choses qui étaient assez hétérogènes, etc. Et eux ils me disent bah en fait nous on va pas pouvoir vous suivre sur vos exigences.
Ah oui. Bon, ils ont été francs.
Donc ils ont été francs, mais à ce moment-là, alors que je viens de démarrer l'aventure,
retour à la case départ.
Pas d'atelier. Et pas de prod, pas de vente. C'est aussi logique que ça. Et puis après, grâce à quelqu'un de top, en parlant comme ça, elle me dit, bah tiens, tu devrais contacter cet atelier. Donc je contacte en fait mon atelier actuel, mon atelier de confection actuel. Le courant passe vraiment bien de suite. La directrice est une maman, tu vois, qui doit avoir 35 ans, qui a deux enfants, qui est hyper engagée dans l'écologie, dans l'éducation aussi, enfin qui a des vraies valeurs. À la fois perso pour sa boîte aussi, et donc je me dis bon bah ça peut peut-être matcher, c'est cool. Donc en fait c'est, alors là du coup je quitte la France.
D'accord.
Je quitte la France et donc on part dans les pays baltes.
Ouais.
Donc c'est l'Union européenne. Ça c'était vraiment important pour moi aussi, de garder en tout cas une production dans l'Union Européenne. Mmh. J'avais pas du tout, j'aurais pu à un moment donné, hein, j'avais des opportunités pour partir beaucoup plus loin, mais c'est pas, je trouve, en accord avec les valeurs de Pipouette, donc j'avais pas envie de le faire. Et donc voilà, elle me dit ok, ben envoyez-moi un exemplaire, on va voir si on peut le faire. Un mois plus tard, avec mon mari, on part visiter l'atelier, on rencontre tout le monde, on trouve que c'est top. Vraiment, enfin, c'est hyper conforme à ce qu'on s'était imaginé, même en mieux. Voilà, je vois des couturières heureuses de bosser, bonne ambiance, un atelier vraiment à taille humaine. Je sens que voilà, les gens sont bien pour bosser. Je sens que il y a une vraie envie d'avoir un gros niveau de qualité, et de faire les choses bien. Donc du coup bah, ça me parle vachement. Donc on reste deux jours sur place, mais voilà, on règle plein de petits détails, mais qui sont hyper importants, parce que qui font l'esprit de Pipouette. Et voilà, donc super souvenir en fait, de cette rencontre, de ce voyage, etc. Après, ils sont même venus, elle est même venue avec son mari à Paris. On les a revus en famille, on a pris un café ensemble, je l'ai revue à Playtime. Enfin, voilà, il y a une vraie relation de confiance et de proximité malgré un peu l'éloignement au quotidien avec cet atelier. Et vraiment, j'ai toute confiance en eux. Et ça, pour moi, c'est hyper essentiel, en fait, d'avoir cette confiance avec les gens avec lesquels je bosse.
Donc l'aventure démarre...
Donc l'aventure redémarre pour de vrai.
Ouais. Et là, c'est parti.
et en plus, et là, quand l'aventure redémarre, pour le coup, donc là, autant c'était très souple avec le premier atelier sur les quantités, là, c'est quand même un atelier... qui cherche à faire du volume malgré les belles valeurs. Et donc ils me disent le minimum du minimum, c'est 500. Et là mon mari me dit non mais fais 1000.
Ah oui.
Et là je dis 1000, je dis mais c'est beaucoup 1000. Il me dit non mais Nathalie, L'important, c'est la supply chain, la vente, c'est presque facile. Ok. Ouais.
Moi, beaucoup plus serein, le mari.
Ouais, c'est ça. Et j'ai dit, mais t'es sûre et tout, parce que bah, c'était toujours un financement sur fonds propres. Ouais. Donc là, je vais... Enfin, c'est pour ça que je te dis, c'est un peu vraiment le projet de ma vie. Parce que bah, c'est une aventure familiale, une aventure humaine, une aventure, pour le coup, je mets tout ce que j'ai. Donc je mets mon temps, mon énergie, tout mon argent. Donc en fait, je me dis, ok, bon, bah là, je mets tout au service de Pipouette. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie de reculer, hein. Et je me dis, voilà, donc c'est un vrai projet de vie où tout le monde est un peu embarqué là-dedans et on se dit, ok, en fait, ben, si ça marche pas, il y aura pas de regret, je l'aurai fait et je reprendrai un autre job. C'est pas, enfin, il y a pas mort d'homme. Je voyais pas du tout quel autre job pouvait reprendre, mais bon, ça c'est une autre question. Mais c'est vrai, voilà, c'est une aventure une fois dans sa vie, quoi qu'il arrive, et je me dis, bon bah, go. Donc du coup, je commande 1000.
La grosse pression.
C'est la grosse pression, parce que là, pour le coup, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros que je mets en prod. Et là, je me dis, ok, bon, bah, maintenant, va falloir un peu y aller, pour de vrai, vraiment, quoi, parce que... Parce que qu'est-ce que je vais faire de ça, sinon ? Donc, en plus, bah, à l'époque, tout le stockage est chez ma maman, qui est à 2 heures de chez moi. J'en ramène tous les mois plusieurs cartons dans la voiture. On stocke bah, dans l'appart, qui n'est pas immense. Donc, on vit Pipouette. Enfin, c'est vrai.
Pipouette est bien là, quoi.
Ouais. On vit vraiment Pipouette. Et finalement, ben... Bah, je remercie Nicolas de m'avoir dit de commander 1000 puisque je les avais vendus pour Noël.
Ah oui.
Voilà. Donc, donc merci.
Merci chérie.
Donc non, pour le coup, c'était plutôt bien d'avoir osé en fait. Et je pense que c'est ça que je retiens en fait de cette expérience. C'est quand on est quand même convaincu de son projet, qu'on fait les choses bien, à tous les niveaux. Je crois qu'il faut pas... faut lever les freins et se dire, ok, ben, si tu penses que ce que tu fais c'est bien, ben, faut y aller à fond et faut le dire aux gens en fait. Enfin, faut arrêter de se cacher en me disant, ouais mais je sais pas trop. Ben non, en fait... si t'as fait tout ce qu'il faut pour que ce soit bien, donc bah maintenant dis-le aux gens. Ouais. et puis vas-y et ose, quoi.
Et du coup, c'est toi qui gères tout, donc t'as géré toute la prod, t'as créé ton statut, tu gères tout ce qui est com, tu crées des nouvelles choses parce que maintenant Pipouette a plein de tenues interchangeables aussi. Comment tu trouve du temps pour faire tout ça?
Alors, je suis toujours à la bourre, surtout, globalement. Mais bon, les choses se font et parfois, bah, ça prend un peu plus de temps, mais en tout cas, ça se fait. Oui, alors, sur certains sujets, de temps en temps, voilà, je fais appel à des freelances et je bosse pas non plus seule dans mon coin. Mmh. Mais bon, malgré tout, aujourd'hui, dans l'entreprise Pipouette, voilà, je suis toute seule. Et donc, en effet, bah, je gère un peu tous les sujets. Donc, bah, dans ma journée, parfois, bah, je suis responsable de prod, suivi de projet, comptable, directrice artistique, community manager... j'écris, je pense, je fais du développement produit. C'est vrai que c'est aussi ça en fait qui est hyper chouette dans l'aventure, et c'est ça qui me convient bien, c'est de pas être cantonnée finalement. Je ne suis pas, ma vie pro ne se résume pas à faire que du marketing ou que de la compta ou que je ne sais pas quoi. C'est vraiment hyper varié. Ça change tout le temps. Ça évolue bien évidemment au fur et à mesure, en fonction des temps de l'année aussi, des remontées des clients et de la communauté.
Donc, ah oui, parce que tu fais aussi le service client.
Ah oui, aussi.
Ça, c'est pas une mince affaire.
Et j'essaye d'être vraiment ce qui est hyper important pour moi, c'est d'être le plus à l'écoute de mes clients et de ma communauté. Alors après, je peux pas satisfaire tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'être le plus à l'écoute et de construire, de co-construire finalement en fait le développement de Pipouette avec tout ce qu'on me fait remonter. Donc par exemple, quand je réfléchis à des développements produits, par exemple comme le pack dodo où tu as où en fait ça aide les enfants dans le rituel du coucher, ça a vraiment été pensé comme ça, comme une aide au rituel du coucher. Donc il y a le visage de la fatigue pour reconnaître le moment où la fatigue elle est là et pas attendre en fait la surexcitation pour aller se coucher. Le visage du dodo apaisé de Pipouette, ou vraiment qui est là pour rassurer l'enfant et pour dire en fait tu sais c'est chouette de dormir et on va dormir ensemble et ça va bien se passer. Donc d'avoir un discours hyper positif et rassurant au moment du coucher. Et le pyjama de Pipouette, du coup ça fait vraiment partie du rituel, presque un peu comme le pyjama, les dents au lit quoi, tu vois. Et donc le fait que l'enfant soit aussi vraiment actif en fait avec Pipouette, pour moi c'est hyper important, parce que j'ai aucune envie que Pipouette soit une déco instagrammable dans une chambre d'enfant. Oui, ok, c'est beau et c'est cool pour les photos, mais moi ce que j'aime c'est voir limite des Pipouettes un peu tout abîmées,
qui ont bien servi,
que les enfants trimballent partout, et qui est une vraie histoire de vie, presque d'amitié, d'amour entre l'enfant et ses Pipouettes en fait.
Qu'est-ce que t'as comme retour des familles justement?
J'ai des super retours, donc je pense que c'est le plus beau de l'aventure. Et ça fait parce que dans l'entrepreneuriat il y a des galères tous les jours, c'est une réalité. Et c'est ça qui fait vraiment tenir, je pense. Enfin, c'est un peu ma drogue, mon adrénaline, je sais pas comment appeler ça, mais c'est ce qui me porte au quotidien, à la fois pour surmonter les difficultés et pour faire grandir Pipouette. C'est tous ces retours de famille, et que ce soit des retours de parents ou des retours d'enfants aussi. Enfin, tout est... Ouais, ça fait chaud au cœur quand on me dit que Pipouette est devenue l'inséparable doudou de l'enfant, quand on me dit que Pipouette aide vraiment à désamorcer des situations de crise entre guillemets dans la famille, que c'est un vrai outil pour libérer la parole des petits et des grands, que ça aide aussi dans la fratrie. Ben oui, ça c'est sûr que c'est quand même... Je pense que je m'en lasserai jamais en fait. Il n'y a pas un témoignage où je me suis sentie blasée en me disant ok, non, jamais. Ouais. Je trouve que chaque témoignage est unique, parce que chaque enfant, chaque famille est unique. Et chacun utilise en plus ses propres mots et me raconte sa vraie histoire de famille. Et ça... Et ça, tu vois, quand je dis des fois à Nicolas, mon mari, je lui dis, tu sais, aujourd'hui, j'ai reçu ça ou ça comme message, et que je lui montre, il me dit, mais non, mais il y a des gens qui t'écrivent des messages sur Instagram pour te dire. Je dis, tous les jours.
Oui, c'est un vrai partage.
Après. Ouais, il me dit, ok, je pensais jamais qu'il y a des gens qui prennent du temps, en fait, parce que c'est vraiment ça. Enfin, des fois, il y a des gens qui m'écrivent sur plusieurs lignes, un vrai vécu quoi, vrai partage, et ça je trouve ça ouf, je trouve ça magique. Ouais.
Et alors qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant depuis que Pipouette a évolué, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce que t'as créé en tout ce temps? Ça fait combien de temps d'ailleurs que...
Deux ans. La gamme des émotions de Pipouette a a grandi, parce que finalement j'aime l'idée aussi que les enfants grandissent avec Pipouette. Donc bah, au fur et à mesure qu'on grandit, et là ça vient pour le coup aussi de mon expérience de maman, en voyant ma fille grandir qui est aujourd'hui qu'à 6 ans, donc ses besoins ont changé. Et c'est vrai que je recommande quand les enfants sont tout petits, vraiment de partir sur les émotions fondamentales. Parce que pour moi, ça sert à rien de... Enfin, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les enfants soient à l'aise avec leurs émotions et qu'ils comprennent qu'ils ont le droit vraiment de les exprimer. Donc pour ça, il faut apprendre à les reconnaître, les identifier, à les vivre. Et au départ, quand ils sont tout petits, pour moi, ça a plus de sens. Qu'est-ce qu'ils vont faire au démarrage? Ce qu'ils ont besoin d'exprimer, c'est quand ils sont tristes, quand ils ont peur, quand ils sont en colère, quand ils sont joyeux. Après, les autres émotions, ça vient un peu plus tard. Et c'est normal. Enfin, voilà, ça fait partie du cheminement du développement de l'enfant. Donc aujourd'hui, on peut avoir en complément la surprise, le dégoût, la timidité ou la honte. Enfin voilà, celui-là, il est un peu interchangeable. L'amour, ça marche pour tous les âges. Ça, il n'y a pas des tout petits. Et l'amour, c'est pas juste être amoureux. L'amour au sens avec lequel j'ai construit ce visage, c'est l'amour au sein d'une famille, quelle qu'elle soit. Et c'est l'amour aussi, même quand on s'est fâché. Et en fait, c'est vrai que des fois, les mots dépassent notre pensée, ou nos comportements aussi nous dépassent. Mais pour autant, on s'aime toujours. Et quelque part aussi, voilà, il y a des familles pour qui c'est difficile des fois. C'est pas facile de revenir après une dispute, par exemple. Et donc revenir avec le visage de l'amour de Pipouette, je trouve que c'est une jolie manière de reformer un peu le lien qui s'est rompu peut-être quelques instants, et de se dire allez viens, ok, on se fait un câlin tous ensemble avec Pipouette, et puis allez, on repart, quoi. Y a la fierté aussi, sur laquelle c'était hyper important de bosser pour moi, parce que derrière tout ça, en fait, la vraie mission de Pipouette, derrière exprimer ses émotions et oser les vivre, etc., c'est au final, qu'est-ce que c'est? C'est donner confiance. C'est avoir confiance en soi, pour être à l'aise avec soi, être à l'aise avec les autres. Donc la fierté, elle est vraiment là pour ça aussi, pour se dire j'ai le droit d'être fière de moi. Et de pas toujours attendre que les autres soient fiers de nous. Parce que du coup, ça veut dire qu'on est toujours dans l'attente de quelque chose, dans la reconnaissance. Alors qu'en fait, on a tout en nous pour être bien avec nous-mêmes et être fiers de nous. Donc ça, c'est un des visages qui me tient beaucoup à cœur. Y a le bonheur aussi, qui je trouve... je sais pas si c'est une émotion, mais en tout cas, c'est une jolie valeur à véhiculer aussi en famille, et pas toujours attendre d'avoir les trucs waouh, profiter des petits bonheurs simples de la vie. La jalousie pour essayer de dénouer en fait des choses aussi dans la fratrie, bien souvent, pour oser aussi dire par exemple à l'arrivée d'un petit frère ou d'un petite sœur, y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements pour l'aîné. Et donc, on a le droit de dire qu'on est jaloux. En fait, tout ça, tous ces visages-là, c'est vraiment de se dire j'ai le droit de reconnaître que je suis comme ça. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. J'ai le droit de ressentir de la jalousie, j'ai le droit de ressentir de la tristesse. Et après, c'est comment, en fait... Pipouette m'aide dans mon quotidien à ressentir tout ça, et surtout à bien le vivre et à m'apaiser, parce que Pipouette est née aussi, par exemple, pour faire la différence entre j'ai le droit d'exprimer ma colère, mais par contre j'ai pas le droit d'être violent, donc j'ai pas le droit de me faire du mal à moi ou d'en faire aux autres. Mais par contre, j'ai vraiment le droit de dire que là, ça va pas, que là, je me sens en colère, que j'ai le droit même de le crier, finalement. J'ai le droit de l'exprimer avec mes mots, mais j'ai le droit de l'exprimer aussi avec mon corps. Mais par contre, avec Pipouette, j'apprends aussi voilà, à le dire autrement, à quelque part à vivre cette émotion intensément et après à retrouver une situation plus apaisée. Mais j'ai pas le droit voilà, de casser des choses, d'être violent déjà envers moi-même oui, et de plus envers les autres. Et dernier visage dont on a parlé brièvement tout à l'heure et qui me tient vraiment à cœur parce que on a eu des nuits très très compliquées, c'est vraiment cette aide autour du sommeil, donc d'avoir un que Pipouette soit vraiment présent au moment du rituel du coucher avec les visages dont je t'ai parlé tout à l'heure, la fatigue et le dodo apaisé.
Est-ce que toi, dans l'entrepreneuriat, t'as aussi vécu toutes ces émotions qui se trouvent sur Pipouette ? Parce qu'il y en a pas mal que je retrouve dans ce que tu m'as raconté dans ton parcours.
Oui, bien sûr. C'est l'ascenseur émotionnel un peu tous les jours. Oui, bien sûr.
Notamment la fierté qui arrivait un peu plus tard. Est-ce que c'est un moment où toi aussi, tu commençais à te dire « c'est bon, je suis fière de ce que j'ai fait et que... » avec Pipouette, et c'est bon, je me sens prête à le dire.
Oui, je pense que c'était une émotion que j'aurais peut-être pas pu sortir au début, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, et que maintenant j'ose, dire que je... Oui, j'ai une certaine fierté quand même à avoir créé Pipouette, et surtout à avoir... ce qui me rend le plus fière, en fait, c'est d'être utile aux familles. Mmh. C'est vraiment ça ma plus grande fierté, oui.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, toute cette aventure de l'entrepreneuriat ?
Tout, presque. Enfin, en tout cas, ça a changé beaucoup de choses parce que... déjà, aujourd'hui, en fait, je me suis créé mon propre emploi. Mmh. C'est pas rien. Alors, c'est... Tout ce sujet de la rémunération dans l'entrepreneuriat est finalement assez tabou. J'en ai pas vécu du tout de suite, hein. ça fait vraiment pas longtemps, tu vois, ça fait 2 mois. Mmh. Tout l'argent que Pipouette générait, en fait, je le réinvestissais dans l'entreprise parce que pour moi c'était hyper important en fait de faire grandir Pipouette. Et si j'avais pris cet argent, pour moi, j'aurais pas pu faire tous les investissements que je voulais pour Pipouette. Et ça, c'était pas possible parce que ma priorité aujourd'hui, c'est que Pipouette grandisse. Et moi, qu'est-ce que ça a changé pour moi ? Déjà, ça m'a vraiment donné confiance en moi, vraiment. De me dire, en fait, que je pouvais, en partant de zéro, réussir à créer la belle aventure qu'est Pipouette aujourd'hui. Donc ça, c'est sûr que finalement, en fait, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe demain, ça n'a pas de prix, en fait. Mmh. De me dire, je suis partie de rien. Il y a plein de gens qui ne croyaient pas en moi. Quand j'ai présenté quand même, au début de l'aventure, Pipouette a des potentiels... partenaire, on m'a dit ouais, t'es gentille, mais bon, tu fais un petit truc dans ton petit coin et puis voilà quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est Pipouette grandit plutôt bien. Donc, à ces gens-là qui ont envie, j'ai envie de dire vous avez pas cru en moi, mais c'est pas très grave parce que finalement, en fait, toute seule. Grâce à la force aussi de mes clients et de ma communauté, Pipouette a peut-être pas besoin de vous aujourd'hui, en fait, pour grandir et peut grandir tout seul. Donc ça, c'est quand même, sur ces aspects confiance en soi et fierté, c'est quand même assez incroyable. Ça m'a aussi bousculé Bien évidemment dans ma vie de maman, parce que bah, peut-être que je suis la première utilisatrice de Pipouette. Ouais. Et Pipouette nous apporte beaucoup dans notre vie de famille. Et même aujourd'hui, voilà, Maëlys a 6 ans et c'est un... Pipouette est là dans notre quotidien. Alors tous les jours, c'est peut-être... Parfois, c'est, en ce moment, c'est tous les jours. Puis il y a des fois où bah, elle ou moi, on n'en a pas besoin. Et on... Pipouette est juste à disposition, mais on ne l'utilise pas forcément. Mais en tout cas, ça a révolutionné quand même notre manière de communiquer. D'oser beaucoup plus se dire les choses. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. Quand j'entends ma fille à 6 ans oser dire tout ce qu'elle ressent.
Ouais.
Et oser nous le partager, nous expliquer pourquoi, etc. Moi, je trouve ça dingue parce que moi, à son âge, j'étais pas du tout ouais, capable de le faire. Ouais. Ça, je me dis, au moins, j'aurais réussi ça.
Ouais, carrément.
Ouais.
Et alors, quels sont les projets futurs là, pour Pipouette?
Oui, bah écoute, il y a plein de projets en cours et à venir. Donc, on a sorti les pyjamas enfants pour compléter tout ce rituel autour du coucher. Donc, on a des pyjamas pour les enfants du 18 mois aux 6 ans. Ça, c'est quand même une... un gros bouleversement quand même dans Pipouette parce que c'est la première fois qu'on faisait du vêtement enfant et voilà, c'est des pyjamas tout doux avec les visages de Pipouette, donc le visage de l'amour et le visage du dodo apaisé, donc c'est vraiment les deux visages qu'on a trouvé le plus expressif et qui mettent vraiment en confiance l'enfant pour se dire « Ok, chouette, en fait, c'est génial d'aller dormir.
Ouais. »
Voilà, donc il y a eu ça en nouveauté. Au printemps ou à l'été, il y aura deux nouveaux visages encore. Je ne dis pas sur quoi, c'est la surprise, mais c'est une thématique assez importante en termes de sens. Et puis après, on a la collection printemps-été de Pipouette, parce que Pipouette aime bien être à
Pipouette
page...
a son dressing.
Voilà, Pipouette a son dressing et Pipouette aime bien être un peu à la page de la mode. Donc,
elle est super fashion, voilà. Pipouette
est fashion. Donc Pipouette aura ses vêtements avec ses couleurs printanières et donc au mois de mai. Et puis voilà, après on a dans les projets qui me tiennent à cœur aussi, c'est vraiment de bosser de plus en plus avec des professionnels de l'enfance. Alors j'ai la chance qu'aujourd'hui il y ait des professionnels de l'enfance qui spontanément font confiance à Pipouette et passent commande en fait comme ça et l'utilisent en cabinet, font des retours et ça, c'est du coup, c'est génial. Mais moi, j'aimerais bien être plus active et plus proactive, en tout cas, avec les professionnels et peut-être travailler avec des associations, des groupements, mais que ce soit les crèches, les écoles, les psychologues pour enfants, les sophrologues, les psychomotriciens, les orthophonistes. Donc du coup, s'il y a des professionnels... qui écoute le tourbillon, c'est avec plaisir que j'échangerai avec eux pour avoir leur retour sur Pipouette et puis surtout qu'ils puissent le tester avec leur passion.
Et quels sont tes projets pour toi ?
Alors, dans mes projets perso, vraiment rien que pour moi, c'est peut-être arriver à un espèce de meilleur équilibre de vie. Alors c'est pas qu'aujourd'hui ça me pèse, mais en fait j'ai l'impression de toujours travailler et de jamais travailler.
Oui.
Mais je pense que c'est quand même une des réalités de l'entrepreneuriat, c'est que comme on fait vraiment des choses qu'on aime, qui nous passionnent, j'avoue que j'ai pas... En même temps j'aime bien ne pas vraiment avoir de frontières entre tous les états de ma vie, parce que ça me permet aussi de m'ancrer dans dans ce que j'aime faire. Mais un des trucs que j'essaye de mettre en place et qui n'est pas facile à tenir, mais que j'essaye vraiment, c'est de m'accorder du temps pour moi dans ma journée. C'est peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas dans ma semaine. Et de pas culpabiliser si je me dis, bah voilà, là je vais me prendre une heure ou deux heures pour faire un truc qui a rien à voir avec Pipouette. J'en sais rien, marcher, aller faire un déj avec une copine. Enfin bon, les déj en ce moment c'est un peu compliqué, mais tu vois, l'idée c'est vraiment de profiter de l'entrepreneuriat aussi et de cette liberté pour faire des choses que j'aime moi.
Et est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Alors je sais pas si je suis légitime pour donner des conseils, mais en tout cas la chose que j'ai envie de dire, c'est vraiment d'oser. Pour moi c'est la clé de tout. C'est la clé quand on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on a envie de le démarrer. Mais c'est aussi vrai, je pense, à tous les stades de l'aventure entrepreneuriale, parce qu'il y a toujours des moments où il faut franchir des caps, etc. Et donc c'est vraiment, ouais, c'est oser, croire en soi. En fait, au final, de toute façon, il faut tester. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Je crois qu'il faut l'accepter. Et bon, en tout cas, d'oser, c'est la plus grande des libertés des entrepreneurs en plus. Donc, let's go quoi.
Merci beaucoup Nathalie.
Merci Shane.
Partie de zéro, l'aventure entrepreneuriale de Nathalie donne envie d'oser. Si vous souhaitez vous-même entreprendre ou que vous êtes déjà lancé, j'espère que cet épisode vous aura donné l'envie d'aller au bout de votre projet. Vous pouvez retrouver Pipouette sur le site pipouette.com pour découvrir le fameux lapin qui accompagne les émotions de vos enfants. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours inspirant dans le tourbillon Family.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.